l'écho d'économie.
La RDC prend la présidence du groupe Afrique du FMI et de la Banque mondiale. C'est en marge des assemblées du printemps 2023 qui se tiennent à Washington. Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, commandera pendant une année ce groupe de 23 pays africains, membres de ces institutions. Plus de 500 kilos d'or artisanal exporté par Primera Gold en 3 mois vers Dubaï. Les organisations de la société civile du Nord Kivu et Sud Kivu, thématique mine, saluent ce record qui dépasse de loin les statistiques officielles des 10 dernières années et les assignations officielles. La faible mobilisation de recettes par rapport aux prévisions attendues pour le premier trimestre 2023 à la base du retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État. Pour le Centre de recherche en finances publiques et développement local, cette situation traduit un problème d'équilibre budgétaire entre les recettes et les dépenses. Bienvenue à tous. La RDC a pris la présidence ce mercredi du groupe Afrique 2, constitué de 23 pays africains, membres du FMI et de la Banque mondiale. C'est le ministre Nicolas Kazadi qui a pris solennellement les commandes de ce groupe à Washington pour une durée d'un an selon un principe de rotation. C'était en marge des assemblées du printemps 2023 du FMI et de la Banque mondiale. Au nom de l'État congolais, Nicolas Kazadi a précisé que le mandat de la RDC à la tête de ce groupe s'est axé sur le renforcement de la collaboration entre les pays de l'Afrique subsaharienne et les deux institutions de Bretton Woods. C'est là car les besoins en financement des pays africains sont toujours importants. Le ministre Nicolas Kazadi, dans ses propos exclusifs recueillis par Cynthia Bachizi Nabizana.
Ce forum nous permet de consolider notre solidarité dans la quête de solutions aux défis communs auxquels nos pays sont confrontés et que nos réunions sont toujours l'occasion pour nous de faire le point de notre collaboration avec les deux institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les fortes augmentations du coût de la vie, conjuguées à la faiblesse de la demande extérieure et au resserrement des conditions financières mondiales, ont freiné la reprise post-Covid dans nos pays. Les tensions sur les prix des denrées alimentaires se sont intensifiées. Des risques demeurent, même si la croissance économique sur notre continent dépasse les prévisions mondiales. Dans ces conditions, nous devons renforcer notre coopération avec les deux institutions de Bretton Woods qui devraient continuer à apporter à nos économies des soutiens financiers et institutionnels indispensables à leur transformation et au progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais donc remercier ces deux institutions et nos deux administrateurs pour leur soutien déjà apporté, mais aussi pour leur demander de redoubler d'efforts, car nos besoins en financement sont importants. Nous devons nous assurer que la définition de ceux-ci suit une démarche inclusive qui prend en compte les préoccupations de l'Afrique et ses particularités. Dans un tel contexte, il nous incombe de tenir nos engagements vis-à-vis de ces institutions et de jouer notre partition.
Les organisations de la société civile Nord Kivu et Sud Kivu, thématique mine, saluent les résultats significatifs réalisés par Primera Gold dans l'exportation de l'or artisanal. Cette co-entreprise entre la RDC et les Émirats Arabes Unis a exporté en l'espace de 3 mois plus de 500 kilos d'or artisanal vers Dubaï. D'après les deux structures de la société civile, ces données dépassent de loin les statistiques officielles des 10 dernières années et les assignations officielles fixées à un minimum de 100 kilos par mois. Pour autant, les membres de la société civile demandent au gouvernement congolais de publier l'accord Joint Verdure conclu en décembre dernier entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. C'est là par souci de transparence. Les membres de la société civile l'ont dit dans une déclaration parvenue à Radio Okapi ce mercredi. Les détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Avec une centaine de comptoirs d'or opérationnels sur terrain, la RDC n'avait réussi à exporter que 23 kilos d'or artisanal en 2021 et 34 kilos en 2022. Avec 529 kilos d'or exportés en seulement 3 mois, l'avènement de Primera confirme qu'il est tout à fait possible de changer de paradigme, mais seulement si la volonté politique et sociale s'accorde dans la gouvernance des ressources minières, souligne le groupe thématique mine des sociétés civiles. civile du Nord Kivu et Sud Kivu. Voilà pourquoi cette initiative est fortement encouragée par ces acteurs, surtout pour tout le travail de traçabilité qui est réalisé avec le devoir de diligence tout le long de la chaîne d'approvisionnement de l'or. C'est surtout grâce à la réalisation de la cartographie de tous les sites miniers d'où proviennent cet or exporté. Tout en demandant au gouvernement de rendre public l'accord de création de Primera Gold, ces organisations de la société civile plaident pour une extension de cette entreprise au regard de ses résultats très prometteurs, notamment en prenant des dispositions pour créer des succursales ou antennes de Primera Gold dans les zones à forte production artisanale d'or. Les cas des provinces du Nord Kivu, du Maniema, de l'Ituri, du Haut-Tolé, du Bas-Tolé, du Tanganyika. Les organisations de la société civile invitent le gouvernement à continuer ses efforts de démanteler les réseaux internes et externes qui financent l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or artisanal de la RDC par des fonds non tracés. Une situation qui entrave les efforts visant l'effectivité de la traçabilité de l'or artisanal ainsi que le contrôle des fonds rapatriés par le circuit bancaire.
L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, la transition de l'économie informelle à l'économie formelle, la sous-traitance et l'exercice du petit commerce au bénéfice des entrepreneurs locaux sont là, entre autres, les questions économiques abordées lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Paul Matendo revient sur ces aspects avec beaucoup plus de détails.
Parlant de l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé au gouvernement de mettre à la disposition de cette institution les ressources financière indispensable pour son fonctionnement et pour le financement des différents projets d'investissement public. Pour lui, la Caisse nationale des péréquations devrait, entre autres, veiller à réduire les inégalités sociales persistantes par manque de politiques volontaristes, mais aussi redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques. Outre ces points abordés par les chefs de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de proposer une nouvelle approche post-crise économique qui doit faciliter la transition de l'économie informelle vers un nouveau modèle formel. C'est dans ce contexte qu'il a chargé les ministres sectoriels, parmi lesquels le ministre de l'économie nationale et celui des petites et moyennes entreprises, de présenter au gouvernement les termes de référence de cette problématique pour des actions concrètes. Abordant la question de la sous-traitance au profit des entrepreneurs locaux, Jean-Michel Samalukonde a demandé au ministre de l'économie nationale de se pencher sur la double problématique de l'exercice du petit commerce et de la sous-traitance pour un examen approfondi assorti des actions à mener à court terme en vue de la mise en œuvre de lois en cette matière.
L'appel des agents de l'État du mois de mars a été reporté pour avril. L'annonce a également été faite lors du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement justifie ce retard par une faible mobilisation des recettes par rapport aux prévisions attendues pour ce premier trimestre de l'année 2023. Ces arriérés de salaire représentent une enveloppe de 250 milliards de francs congolais pour le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFEDEL. Cette situation traduit un problème d'équilibre budgétaire entre ce qui est mobilisé et ce qui est dépensé, la masse salariale et les dépenses des frais de fonctionnement des institutions publiques augmentent continuellement alors que les recettes sont faibles. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL, en appelle au strict respect de la loi des finances ainsi qu'un contrôle renforcé de l'enveloppe salariale et des dépenses publiques, seule solution face au régime actuel des arriérés de salaire. Il est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Depuis la réforme des finances publiques intervenue en 2011, on n'a jamais connu des reports des salaires. Vous savez que la rémunération a un caractère d'abord alimentaire. C'est une dépense contraignante. On ne peut pas la reporter comme ça. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Lorsque vous regardez la trajectoire, les gouvernements mobilisent moins les recettes par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que, en 3 mois, le gouvernement devrait déjà mobiliser environ 3,5 milliards pour janvier, février et mars. Mais là, nous sommes pratiquement à la moitié. Conséquence, les dépenses, surtout des fonctionnements, ont explosé et les rémunérations ont pratiquement doublé. On continue à engager les gens dans les entreprises publiques, dans des ministères, mais on ne regarde pas l'enveloppe globale de rémunération qui est prévue dans la loi de finances. Et on ne sait pas capter aujourd'hui la vraie masse salariale à payer. C'est pourquoi il y a un problème aujourd'hui avec l'absence de contrôle de la masse salariale. Et aujourd'hui, au moins mensuellement, il y a un dépassement de 30 millions de dollars qu'on constate au moins chaque mois. C'est ce qui crée maintenant des problèmes d'équilibre budgétaire entre
ce qui est mobilisé et ce qui est dépensé. Et là, nous notons aussi que le pacte de stabilité monétaire qui a été signé entre le gouvernement et la Banque centrale n'est pas respecté. C'est pourquoi nous nous recommandons que la masse salariale, c'est-à-dire les rémunérations, ça doit passer par la chaîne de la dépense pour que l'on sache réellement qui sont payés par mois. De deux, nous pensons qu'il faut qu'on puisse respecter le pacte de stabilité.
Une source au sein du gouvernement contactée rassure que ce problème sera résolu à la fin de ce mois d'avril qui marque l'échéance fiscale. Au-delà des dépenses publiques, plusieurs activités économiques sont bloquées suite à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, a souligné nos sources.
Écho d'économie.
Au Nord Kivu, le trafic routier demeure difficile dans la zone occupée par les rebelles du 1-23. C'est à la suite des perceptions illégales des taxes sur les véhicules voyageurs sur l'axe Sake-Kichanga, territoire de Masisi. La force régionale de l'EAC dit avoir supprimé la barrière qui était tenue par les rebelles au niveau de Kikwe. Sur la nationale numéro 2, axe Goma-Kibumba-Ruchuru-Lubero, les voyageurs affirment vivre des calvaires. Bernard Danyangi.
Dans le territoire de Masisi, quelques témoins qui ont quitté Kichanga pour Goma hier mardi, juste derrière un convoi du contingent burundais de l'EAC, affirment être passés sans difficulté au niveau de Kilolirwe. Dans ce village, tout comme à Mushaki, sur l'axe Masisi Centre, les rebelles tenaient des barrières sur lesquelles des montants variant entre 420 et 500 dollars américains étaient perçus sur chaque camion transportant les produits vivriers. Nos sources au sein de la force régionale de l'EAC indiquent que leurs éléments ont supprimé les barrières sur ces axes où les rebelles ont retiré les deux derniers jours toutes leurs positions. Mais d'autres sources locales qui restent sceptiques affirment attendre encore un peu plus de 48 heures pour être rassurés du rétablissement du trafic apaisé sur cet axe routier. Ce sont des civils M23 qui perçoivent des taxes, disent-elles. Du côté de la nationale numéro 2, Goma Rutshuru Lubero, le trafic reste difficile. Les gens qui quittent Kanyabayonga pour Goma, par exemple, contournent par Vichumbi, traversent le lac Édouard par pirogue pour déboucher à Nyakakoma Puyishasha, qui sont occupés par l'FDLR et les Wazalendo, avant de franchir la zone du 1-23 entre Nyongera, Kiwanja jusqu'à Kibumba. À chaque étape, ils donnent de l'argent aux forces qui occupent chacune de ces entités. Et cela pour chaque colis qu'ils transportent. Nos sources affirment patienter la promesse de l'EAC de rouvrir le trafic sur cet axe d'ici vendredi.
Et c'est par ici que prend fin ce magazine. Merci à vous tous de l'avoir suivi.